tourisme, j'ai à cœur d'évangéliser, et puis après, quand je suis devenu père, une grande angoisse a saisi mon cœur, savoir le salut de mes enfants. Qu'est-ce que la vie d'un père, si il doit grandir, s'il doit vieillir avec cette charge sur son cœur d'avoir mis au monde un fils ou une fille qui ne marche pas avec lui, qui ne connaît pas la glorieuse espérance d'être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et je me souviens avoir pas mal réfléchi là-dessus, prié, jusqu'au jour où la paix est venue dans mon cœur, où ma responsabilité n'était pas de sauver mes enfants, mais ma responsabilité était de leur montrer le chemin du salut et leur témoigner au travers, non seulement de mes paroles, de mes enseignements, mais au travers de ma vie personnelle, la réalité d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui les aime et qui veut les gagner. Et les parents de toute famille chrétienne, je crois, ont les mêmes soucis, les mêmes désirs, le même point qui demeure sur leur cœur de voir leurs enfants connaître le Seigneur également. C'est pourquoi l'évangile porté aux enfants devrait nous concerner au plus haut chef. J'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 14. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 14. Il est dit en ce temps-là, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme parmi le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu ne veut pas la perte de ces petits. Imaginez le Seigneur là avec cet enfant quand les disciples sont venus l'interroger sur la grandeur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus a pris un enfant et tout cet enseignement, il le donne avec cet enfant là, sur ses genoux, dans ses bras. Et puis il dit sans cesse l'un de ses petits. Un vieil homme avait reçu la charge d'une petite église en dehors de l'Écosse. Et un dimanche soir, à la réunion, il n'y avait que lui, sa femme et un vieux diacre. Et un tout petit garçon.
Alors le pasteur a dit à sa femme, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer jusqu'au bout? Alors à ce moment-là, le petit garçon est venu et lui dit, mais on est quatre. Et je compte, moi. Et alors il a dit, ok, on va faire cette réunion. Ils ont tenu cette réunion et ce petit garçon est venu semaine après semaine pour entendre l'évangile. Ce petit garçon n'est autre que Robert Moffat, qui plus tard est parti comme missionnaire pionnier en Afrique. On aurait aisément cette tendance à compter les enfants comme une quantité négligeable. J'aimerais donner aujourd'hui 10 raisons pour lesquelles il faut nous intéresser aux enfants et leur annoncer l'évangile. La première raison, ceux qui sont aussi perdus que les adultes. La Bible enseigne que par nature, nous sommes des pécheurs, enfants de colère, morts spirituellement. Regardez le psaume 58 et le verset 4. Psaume 58, verset 4, il nous est dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel, et les lenteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est dans notre nature humaine que nous sommes atteints. Cette nature pécheresse se manifeste très rapidement par des actions qui sont entachées par le péché. Siméon, c'est le fils aîné de Samuel. Siméon, c'est un petit bambin avec une tête d'ange, avec des cheveux tout longs. Et sa grand-mère est venue le garder il y a quelque temps à Toulouse. Et tout le monde disait, oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Et tout le monde venait voir la grand-mère en disant, oh mais qu'est-ce qu'il est mignon, Siméon. Et la grand-mère a dit, oui, c'est vrai, il est mignon. Mais on voit déjà bien qu'il a une nature pécheresse. Et elle, en regardant, elle avait déjà vu qu'au fond de son cœur, il peut y avoir de la rébellion, il peut y avoir de la désobéissance. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir toutes ces choses. Et si elles sont encore à l'état tout petit, on sait qu'en grandissant, ces choses-là vont sans cesse prendre de l'ampleur. Et c'est pour ça que, aussi mignon que soit Siméon, eh bien, il a une nature pécheresse. Chaque enfant a cette nature pécheresse. Il est dit au verset 14, dans Matthieu 18, verset 14, il dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et le mot ici, se perdre, c'est le mot qui signifie voué à la misère éternelle, à l'enfer. Le seul moyen pour qu'une personne, jeune ou moins jeune, entre dans le royaume de Dieu et de passer par la nouvelle naissance. Verset 3, il est dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si un enfant est assez vieux pour savoir qu'il a péché devant Dieu et comprendre que Jésus-Christ est mort pour son péché, s'il rejette délibérément le chemin du salut de Dieu, alors cet enfant et sous le jugement de Dieu. Et s'il vient à mourir dans cet état, il sera perdu pour toujours. S'il peut être sauvé pour toujours en croyant en Jésus-Christ, il peut être aussi perdu pour toujours s'il ne croit pas en lui. Voilà pourquoi il nous faut annoncer l'évangile aux enfants. Ici, je voudrais faire une petite parenthèse quand même sur la question que beaucoup peuvent se poser. Mais à partir de quel âge un enfant peut-il être sauvé ou perdu? Nous ne savons pas précisément, parce que ça dépend même de chaque enfant. Mais la Bible parle d'un âge où l'enfant sait rejeter le mal et choisir le bien. Les Juifs font leur bar mitzvah à l'âge de 13 ans. La bar mitzvah, c'est dire, c'est devenir un fils de la loi, littéralement. C'est-à-dire qu'ils deviennent responsables vis-à-vis de la loi de Dieu, qui va les juger. Et ils deviennent donc adultes spirituellement. Ils ont pas, ils peuvent lire la Torah, ils peuvent participer à toutes les réunions de la synagogue. Plusieurs voient dans cet âge, eh bien, l'âge de raison. Néanmoins, un enfant peut parfaitement comprendre son état devant Dieu et la grâce qui lui est offerte bien avant cet âge. Et alors, il est responsable de la recevoir. Bien des croyants sont devenus croyants vers l'âge de 6 ou 8 ans. Certains encore plus tôt. Il est par ailleurs évident que la condamnation éternelle ne s'applique pas aux nourrissons et aux petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de comprendre et de raisonner. Ils sont morts spirituellement, ils ont une nature pécheresse qui ne tardera pas à se manifester, mais ils ne sont pas pour autant sous la colère et le jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore la responsabilité. Ils n'ont pas encore rejeté le Seigneur et donc ils ne sont pas condamnés s'ils venaient à mourir. Ils entrent immédiatement dans la présence de Dieu. Tant que son enfant était malade et sur le point de mourir, le roi David était désespéré. Il priait, jeûnait, se lamentait. Mais quand l'enfant mourut, David cessa de se lamenter. Pourquoi? Et parce qu'il croyait qu'il serait un jour réuni à son fils. Il dit, moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et cette pensée-là réconforta le cœur de David. Et c'est pourquoi je crois que, voilà, un enfant, un nourrisson qui meurt, eh bien, elle va auprès du Seigneur. La deuxième raison pour laquelle on devrait évangéliser les enfants, c'est qu'ils peuvent croire aussi bien que les adultes. Au verset 6, il est dit, « Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de poulet et qu'on le jette au fond de la mer. Donc, ils peuvent croire en moi, en Jésus-Christ. C'est le mot pisteo qu'on retrouve dans Jean 3,16, dans Jean acte 16, 31. Voilà. Toujours, cette foi, elle peut naître aussi dans le cœur même de ces tout petits. Et le Seigneur ajoute, au verset 4, « Si vous le devenez comme les petits-enfants, pour qu'un adulte soit sauvé, il faut d'abord qu'il devienne comme un enfant, c'est-à-dire simple, humble, confiant, et même dépendant, même qu'il réalise sa fragilité. L'enfant n'a pas à devenir comme un adulte, mais bien au contraire, c'est l'adulte qui doit devenir comme un enfant. Et l'adulte trouve ça très difficile, mais pour l'enfant, ça n'est pas difficile. L'enfant fait naturellement confiance à celui qui lui parle. L'enfant est naturellement prêt à saisir des pensées extraordinaires, qu'il existe un pays éternel, où la gloire de Christ éclaire toute chose. Il est prêt à croire que Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, a créé l'univers et qu'il nous a créé simplement par sa parole. Aucun problème. C'est quand on devient adulte qu'on pense être sage, alors qu'on est tout. Qu'on commence à réfléchir à ces choses-là, qu'on commence à raisonner et qu'on commence à douter de ces choses-là, de sa réalité. Et quand on devient un chrétien, il faut d'abord faire le chemin inverse, redevenir un petit enfant, saisir les réalités spirituelles telles qu'elles sont décrites dans la parole de Dieu. Un enfant, étant plus jeune, il a aussi vécu moins d'années dans le péché et son cœur n'est pas autant voilé, autant masqué, autant endurci par le péché. Écoutez cette parole du Seigneur il vient de dénoncer l'indifférence de toutes les villes par lesquelles il est passé faisant des miracles et qui ne se sont pas repentis et n'ont pas cru en lui. Et il dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il nous faut annoncer l'évangile aux enfants, parce que leur cœur est plus prompt à croire que celui des adultes. La troisième raison pour laquelle nous devrions annoncer l'évangile aux enfants, c'est que les enfants ne sont pas encore tombés dans la ruine occasionnée par le péché. Au verset 6, il dit encore, hein, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, ils sont encore sensibles. Leur conscience est réactive. Quand vous prenez un enfant sur le fait, alors qu'il vient de pécher, ou qu'il vient de prendre quelque chose, ou vient de désobéir, il est comme terrorisé, il est saisi, sa conscience l'accuse, il va pleurer sans l'ôter. Mais un adulte, le cœur est dur, sa conscience est devenue tellement élastique. Elle n'est plus sensible, elle ne répond plus aussi rapidement aux injonctions de l'esprit. Malheur à celui qui scandaliserait un de ses petits qui croit et qui causerait sa chute, a dit le Seigneur. Quelqu'un a essayé d'imaginer la vie comme une falaise abrupte. Vous voyez, la vie, c'est. Il y a une grande falaise, un grand plateau comme cela, avec une falaise abrupte et puis une grande descente comme ça. Alors les gens avancent et puis ils grandissent, et en grandissant, ils s'approchent de la falaise abrupte, et puis bien souvent, ils s'approchent trop, ils glissent, et donc leur vie est fracassée en bas de la colline. Et puis alors, à ce moment-là, eh bien, l'Église envoie les missionnaires. Envoie les missionnaires. Et puis là, les missionnaires vont en bas de la falaise et puis ils ramassent des personnes qui sont mais complètement détruites par le péché, ruinées. Ils essayent de relever ces morceaux-là et puis de les encourager et puis de les porter plus loin. Et puis ensuite, tout le ministère qu'ils ont, c'est de porter ces gens et de leur apprendre à marcher avec le Seigneur et de remonter sur le plateau sans plus jamais s'approcher de cette falaise. C'est un ministère qui est nécessaire et très important. Mais Dieu appelle aussi certains d'entre nous à monter au sommet de la falaise pour y construire un mur de protection. Ce mur de protection qui empêchera les gens de tomber par-dessus le bord et de se briser, c'est le mur de l'évangélisation des enfants. C'est d'instruire les enfants pendant qu'ils sont jeunes. C'est de leur annoncer le sens de la vie. C'est leur annoncer la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est leur annoncer une vie intense vécue dans la présence de Dieu. De cette manière, nous atteignons les enfants avant qu'ils ne deviennent comme leur père, c'est-à-dire qu'ils se fracassent en bas de la colline. Regardez dans le psaume 78, le verset 5 à 8. Psaume 78. Il dit ici, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants à leur tour, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements. Et regardez le verset 8. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, vu leur race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Quel est le plan, quel est l'objectif que nous avons pour nos enfants? J'ai connu le Seigneur, j'avais 21 ans. En 21 ans, il y a tout un tas de bêtises que l'on regrette. Les choses qui vont pas mal, des années plus tard, malgré la justification, l'imputation de la justice de Christ, il y a des traces parce que le péché laisse des traces en lui. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ambitionne pour mes enfants? Est-ce qu'ils soient un peu comme moi? Non. Je veux qu'ils soient bien meilleurs que moi. Et ça, ça commence bien avant l'âge auquel j'ai connu le Seigneur. Je les veux excellents pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons enseigner nos enfants dans les choses du Seigneur et leur annoncer l'évangile au plus tôt. On n'a pas besoin de sombrer dans l'abîme du péché pour avoir une conviction profonde de péché. On l'a vu, un tout jeune enfant se laisse prendre. Il peut saisir la grâce de Dieu et le pardon. Quand les enfants se convertissent à Jésus-Christ, ils sont sauvés de cet abîme. Et voilà pourquoi il faut annoncer l'évangile aux enfants. La quatrième raison pour laquelle nous devons enseigner et annoncer l'évangile aux enfants, c'est que les enfants sont la cible du diable. Au verset 7, il est dit, dans notre passage, Matthieu, chapitre 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales !» Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive, cette parole. Terrible. Il y a des scandales dans le monde. Le diable a bien compris ce dont je parle ce matin. La majorité de ses flèches à lui sont dirigées vers les enfants. Regardez à qui s'adresse le monde. Le séducteur veut gagner les cœurs de nos enfants, et ça le plus tôt possible. La violence, la drogue, la pornographie, l'occultisme, la vanité, la rébellion sont présentés toujours plus tôt à nos enfants. Ce qui était impensable à ma génération est une banalité déconcertante pour la génération d'aujourd'hui. Parce que le diable sait que plus tôt la séduction du péché a opéré, et plus tôt ils en sont possédés, et plus tôt il les fait périr. Cela rappelle l'histoire du père qui demandait au Seigneur Jésus de guérir son fils qui était possédé par un démon. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 20 à 24. Il disait au Seigneur que son fils était dans cette situation pénible depuis son enfance. Et que souvent l'esprit l'avait jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Voyez-vous, le diable, il avait cette pensée d'atteindre les enfants. Et il avait atteint ce fils très tôt. De sorte qu'après ça, il a cherché à le détruire, à ruiner sa vie, le jetant tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Mais le Seigneur l'a gardé. Il l'a gardé pour ce jour-là. Où devant le Seigneur, eh bien, ce frère a pu présenter le cas de son fils. Que le Seigneur l'a délivré. Voilà le but du diable pour nos enfants, c'est de les faire périr. Mais Dieu a trouvé un moyen de salut pour nos enfants au travers de Jésus-Christ. Et la personne de Jésus-Christ mourant pour nos péchés, effaçant toutes nos transgressions, eh bien, est efficace pour sauver nos enfants dès leur plus jeune âge. La cinquième raison, c'est que les enfants sont plus ouverts à l'évangile que les adultes. Un jeune évangéliste était venu voir un homme d'expérience avec un plan formidable. Il dit, ça y est, j'ai vraiment, je sais comment atteindre les gens autour de moi. Voilà ce que je vais faire. J'ai l'intention d'aller là de village en village, de m'installer sur la place du village, et puis là de jouer de l'accordéon. Et puis, en jouant de l'accordéon, les gens vont venir tout autour de moi, et puis, quand ils seront relativement nombreux, je vais commencer à parler du Seigneur et d'exposer l'Évangile. Voilà, l'évangéliste expérimenté, vas-y mon frère, vas-y, fais ça un peu. Alors, effectivement, le jeune évangéliste est parti, il est arrivé, il a fait tout ce qu'il avait dit, et pendant plusieurs semaines, il a parcouru les villages, il est revenu, et puis il est allé devant ce vieux frère évangéliste, et il lui dit, mais c'est bizarre, aucun n'avait voulu m'écouter. Mais partout où je suis allé, il y avait toujours de nombreux enfants qui se sont attroupés pour m'écouter. Et non seulement ils m'ont écouté et joué de l'accordéon, mais ils m'ont aussi écouté et exposé l'évangile. Ils étaient tellement intéressés par le message. Et plusieurs ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Voyez-vous, les enfants sont une population pour les évangélistes. C'est pour cela qu'on doit annoncer l'évangile aux enfants. Dans la maison qui juxte la vôtre, je vois quatre enfants, et trois garçons et une fille. Les quatre enfants sont particulièrement remuants. Et ils sont souvent livrés à eux-mêmes, ils jouent au football, et l'un d'eux est assez bon. Il aime tellement le foot qu'il pourrait taper dans un ballon 10 heures par jour si la voisine d'en face pouvait se porter. Et il aime ça tellement. Mais quand Anne-Sophie commence le club d'enfants, plus rien ne compte. Le foot est mis de côté et il court chez nous pour entendre le message de l'évangile, pour entendre les histoires de la vie. C'est merveilleux. Et malheureusement, nous faisons un club d'enfants que tous les 15 jours. Il y a même des parents qui sont venus nous voir en nous disant: est-ce qu'on peut avoir le calendrier de parce que, en fait, les activités de nos enfants sont organisées en fonction du club. La musique, le sport, c'est en fonction du club. Ça veut dire, d'abord, les enfants veulent aller au club, et ensuite, ils veulent bien faire un peu de musique ou un peu de sport. Est-ce que vous trouvez une telle disposition chez les adultes? Les adultes, c'est si j'ai le temps, quand j'aurai fait ceci, cela, 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 ah oui, peut-être j'aurai trouvé une 8 heures pour venir à l'église. Mais les enfants ont changé ces choses-là. Une petite fille a dit à sa mère: maman, est-ce que vendredi il y a club? Alors la mère a dit: oui. Ah, ben là, ça va être une bonne soirée. Une semaine est bonne pour les enfants du club d'ensemble. S'il y a plein d'enfants, est-ce que vous pouvez imaginer ça? L'attention, le plaisir, la disposition des cœurs pour entendre parler du Seigneur. Plus une personne est âgée, et plus elle devient résistante à l'Évangile, plus elle est difficile à atteindre pour Christ. Un rejet répété endurcit le cœur. Le cœur de l'enfant est encore tendre. Il n'a pas encore été piétiné par les philosophies de ce monde, par les faux discours de ce monde. Il n'est pas encore desséché par la religion formaliste. Il n'est pas encore envahi par les roses de la séduction ou par les soucis que peut donner le monde. Il n'est pas envahi par le candidat qui retient tellement de personnes. Par contre, il se trouve toujours un adulte pour scandaliser un de ses petits, pour ravir la semence, pour l'empêcher d'y être déposé. Et voilà pourquoi il nous faut, nous, annoncer l'évangile aux enfants. Sixièmement, les enfants ont toute une vie devant eux. Et c'est pour cela qu'on doit annoncer l'évangile aux enfants. Les enfants représentent le champ missionnaire le plus prometteur. l'évangéliste Moody, rentré du réunion d'évangélisation, et quelqu'un lui demanda, est-ce qu'il y a eu des conversions ce soir?
Ah oui,
il y a eu deux personnes ennemies qui ont été sauvées.
Ah oui, je comprends.
Il y avait deux adultes
et un enfant.
Non, pas du tout. Il y avait deux enfants et un adulte. C'est comme cela qu'il comptait. Parce que les deux vies sauvées étaient celles des enfants qui venaient à Christ tout jeunes, qui avaient toute leur vie pour vivre pour lui. La demi-vie sauvée était celle de l'adulte qui avait déjà vécu la plus grande partie de sa vie loin de Christ. Quand un enfant se convertit, c'est sa personnalité qui est façonnée. Ce sont ses habitudes qui peuvent être influencées, guidées par la présence du Saint-Esprit dans son cœur. Le meilleur moment pour dresser un animal, c'est lui apprendre à obéir, à répondre aux ordres. C'est la jeunesse. On dresse un chien tout jeune. On dresse un cheval tout jeune. Après, c'est possible encore. Mais vous savez bien combien c'est difficile, combien c'est long, et combien on n'arrive jamais à une telle excellence. La Bible nous dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et verset 27, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. S'ensuit alors une vie de service fructueuse pour le Seigneur. Samuel, qui a été élevé dans le temple, il apprend à écouter et à répondre à la voix de Dieu quand il est encore un tout jeune enfant. Josias, quand il devint un roi à l'âge de 8 ans, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il commença à chercher l'Éternel à l'âge de 16 ans. Et puis il y a Timothée. Il vint à Christ grâce au ministère de l'apôtre Paul, probablement dans son adolescence. Mais il est clair que les bases ont été jetées dans sa vie par sa mère et par sa grand-mère. Comment était-vous? Elle était une évangéliste hollandaise, mon frère connaît certainement bien. Elle est morte à 91 ans. Elle avait connu le Seigneur à 5 ans. 86 ans au service du Maître. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 86 ans entièrement à Christ. Quelle merveille! Est-ce qu'on peut espérer mieux? 90 ans de service au Seigneur. Est-ce que cela ne rend pas l'évangélisation des enfants plus valable que jamais? Est-ce que ce n'est pas un champ plus important? Septième raison, les enfants sont l'avenir de l'Église. Sans m'attarder sur le sujet, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Pouvez-vous voir dans les enfants qui ont quitté, là, qui ont changé, là, chanté là au milieu de nous? Est-ce que vous pouvez voir les futurs missionnaires? Est-ce que vous avez vu les futurs pasteurs? Les futurs diacres, anciens, les pères et les mères de l'Église, les colonnes de l'Église de demain. Ah oui. Voilà pourquoi il faut annoncer l'Évangile aux enfants. Parce qu'ils forment l'Église de demain. Huitième raison. Parce qu'au travers des enfants, on peut atteindre aussi les adultes. Eh oui, un bon exemple, c'est la petite servante juive qui avait été déportée en Syrie et qui témoigna à sa maîtresse, la femme de Naaman, le général syrien. Il était lépreux et elle était convaincue que la puissance de Dieu reposait sur le prophète Élisée et que si Naaman allait rencontrer le prophète Élisée, et que Élisée demandait à Dieu d'Israël, prêt de guérir, il le guérirait. Et par son témoignage, Naaman fut guéri et devint un véritable croyant. Une mère s'est convertie en entendant les chants que sa petite fille chantait tous les jours après être venue au club biblique. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que l'enseignante du club d'enfants pouvait imaginer qu'elle allait toucher
la mère de son enfant?
Elle ne l'imagine pas, mais la réalité, c'est ça. Ma petite sœur, Séverine, est venue à Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Et c'est quand elle est allée dans un camp chrétien. Les parents étaient catholiques et commençaient à étudier la Bible avec quelques membres de l'Action biblique. Et puis, il y a eu cette opportunité d'envoyer leur fille, qui était rebelle aux choses de Dieu, plutôt aux choses de la religion, dans un camp. Et dans ce camp-là, Séverine s'est convertie avec un message sauveur sur Jean 3,16. Quand elle est revenue, elle était changée. Elle était transformée, elle se levait plus tôt le matin pour continuer le culte personnel. Et mes parents étaient stupéfaits. Elle ne voulait toujours pas plus aller à la messe. Mais par contre, elle aimait Dieu. Elle aimait Christ. Et mes parents ont vu en elle un témoignage d'encouragement à continuer à étudier la parole de Dieu jusqu'au jour où eux-mêmes ont connu le Seigneur. Et puis mes parents ont commencé à prier pour leurs deux fils aînés. Et Olivier et moi-même sommes venus à Jésus-Christ. Aujourd'hui, la famille entière est à Jésus-Christ. Deux fils sont à ça. Ma soeur et son mari servent le Seigneur dans l'église de Paris. Ils ont un club d'enfants. Et ils inscrivent des enfants. Cinq enfants de ce club d'enfants, de parents inconvertis, sont partis cette année dans un camp d'été avec Mathieu et Paul. Voyez-vous, le témoignage parmi les enfants porte du fruit, un fruit considérable. Et c'est pour cela qu'on devrait enseigner les enfants, évangéliser les enfants, parce qu'on va atteindre le monde autour de nous. La neuvième promesse, la neuvième raison, c'est parce que la promesse nous est faite. La promesse, elle est faite par le Seigneur lui-même, qui a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que l'enseignement qu'on dépose au fond d'un cœur d'enfant peut porter du fruit, non, porte du fruit, même si c'est dans la vieillesse. Bien souvent, on le voit tout de suite, mais il porte encore du fruit, mais dans la vieillesse. Notre travail n'est pas vain quand on instruit, quand on enseigne les enfants. Ce qui a été semé est une semence qui est vivante, l'évangile, la parole de Dieu. Et elle est permanente. Et c'est pour cela qu'elle germe. Voilà pourquoi il faut enseigner l'évangile aux enfants. La dixième et la dernière raison, c'est parce que Dieu bénit ce qu'ils font. Dieu bénit ceux qui évangélisent les enfants. Alors là, peut-être que tout le monde va dire, je veux commencer à évangéliser les enfants. Regardez, il dit verset 5 dans notre texte, Matthieu 18, 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit comme celui-ci, me reçoit moi-même. Comment ? Comment Dieu va-t-il vous bénir si vous évangélisez les enfants ? Mais d'abord, Dieu vous conduira. Et vous pourrez voir la puissance de son évangile à la maison. Et vous allez gagner des âmes les âmes d'enfants et les âmes éternelles, des vies tout entières pour l'évangile. Et il n'y a pas de plus grande joie que cela, après de connaître le Seigneur soi-même, personnellement, la joie qui vient, la plus grande, c'est d'annoncer et d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Et puis, vous allez apprendre bien plus en enseignant les enfants qu'en étant instruit ou en écoutant vous-même. Vous allez apprendre la patience. Vous allez apprendre l'humilité. Parce qu'à la fin de la leçon, ils vont vous poser une question en révélant qu'ils n'ont rien compris. Oh là là. Mais vous allez agoniser devant Dieu en disant, Seigneur, je voudrais pouvoir être clair. Donne-moi des mots pour les atteindre. Et vous allez apprendre cela. Et puis, vous allez apprendre la persévérance. Vous exercerez votre foi et vous verrez des enfants croyants et grandir, devenir des hommes et des femmes que Dieu utilisera. Et votre cœur, votre joie n'ira qu'en augmentant. La bénédiction de Dieu demeurera sur votre cœur, sur votre vie. Voilà pourquoi nous devons annoncer l'évangile aux enfants. Je conclue. Est-ce que Dieu a parlé à votre cœur au sujet des enfants et de leurs besoins spirituels? Êtes-vous prêt et désireux de le servir dans cette voie? Alors, comment vous allez? Priez pour les enfants. Les enfants peuvent être évangélisés dans leur propre maison. Si vous avez des enfants, évangélisez vos enfants. Êtes-vous un parent, un grand-parent chrétien? Annoncez-leur l'évangile. Timothée avait une grand-mère, Loïs et une mère, Eunice étaient chrétiennes et qu'ils ont annoncé l'évangile. Les enfants aussi peuvent être évangélisés dans l'église locale. L'école du dimanche n'a pas pour vocation de garder les enfants. L'école du dimanche n'a pas pour vocation de les garder éloignés pour que la salle de culte soit un peu plus calme. C'est pas la vocation. Ce n'est pas la vocation de construire un petit bricolage. La vocation n'est pas de faire d'eux des bons manuels, des bons découpeurs, des bons colorieurs. Non. La vocation de l'école du dimanche est de faire de ces païens qui viennent à l'église le dimanche matin, d'en faire des croyants, de véritables convertis à Jésus-Christ, et des hommes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ça, c'est la vocation. Évangéliser, les instruire dans la vie. Notre but est qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur et qu'ils le servent de tout leur cœur. C'est pour ça que vous pouvez faire encore une autre chose. C'est de conduire vos enfants à l'église chaque dimanche. Chaque fois que l'église est ouverte, chaque fois qu'il y a un programme pour eux, vous allez rejoindre un club d'enfants. Mieux encore, de commencer un club d'enfants chez vous. Si votre responsabilité est d'instruire vos enfants, ajoutez quelques camarades de classe, quelques enfants du quartier, et vous avez un club. Quel est l'évangéliste qui pourrait se vanter de toujours avoir des inconvertis dans ses réunions? Mais vous savez, c'est ce qui donne du zèle à un évangéliste, savoir qu'il y a des âmes qui périssent devant lui et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Mais faites cela. Les enfants veulent venir entendre ces choses-là. Mais la majorité, donc, n'ont pas de parents chrétiens et ne vont pas à l'église. L'évangile ne leur est pas prêché. On peut les atteindre. Vous pouvez les atteindre. On a commencé un club d'enfants, je crois, il y a 8 ans. Un des premiers enfants, le premier, il a maintenant, il va avoir 15 ans au mois de septembre. Il a suivi le club d'enfants pendant peut-être 5 ou 6 ans. Et après, il est trop grand. Mais aujourd'hui, il vient à l'église avec beaucoup de monde. Il a accepté le Seigneur Jésus dans un camp. Dans un camp déjà. Et aujourd'hui, il va être baptisé. Et ses enfants ouvrent les yeux, ses parents, pardon, ouvrent les yeux comme cela, s'intéressent, sont interrogés. Le fruit que l'on peut porter avec les cœurs d'enfants est inimaginable. Il est intéressant. Souvenez-vous de la promesse du Seigneur. Souvenez-vous de cette parole ici, à notre verset 14. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul. Alors voilà ce qui devrait nous mobiliser dans l'instruction, dans l'évangélisation des enfants, de prendre cette tâche à cœur. Vous ne faites pas de la garderie à l'école du dimanche, si vous avez responsable d'une école du dimanche. Vous instruisez les âmes pour être les missionnaires, les pasteurs, les évangélistes. Il faut en être conscient. Vous avez des âmes entières, des âmes qui périront éternellement si le vôtre est dans la vie, ou des âmes qui le serviront et qui le glorifieront éternellement s'il le reçoit et que le glorifie. Alors, prions, Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour l'occasion merveilleuse, Seigneur, que tu nous donnes ici, de pouvoir être en famille, de pouvoir avoir tous nos enfants autour de nous, de pouvoir les instruire, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te demandons que dans ta grâce, les uns après les autres soient gagnés par ce coup de nous. Nous te prions pour que leur cœur soit brisé, Seigneur. Qu'ils saisissent le besoin du pardon pour leur vie. Je prie pour que dans ta grâce, eh bien, tu sauves et que tu penses, Seigneur, chaque cœur et que tu en fasses tes évangélistes à leur tour. Que tu en fasses tes pères, tes mères qui seront instruits en propre dans les foules. Nous te prions pour que tu en fasses des diacres, des anciens, des serviteurs, comme pour l'Église, que tu en fasses des de tes ouvriers. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu nous renouvelles dans le zèle que nous donne ton Évangile, pour l'apporter aux enfants, de le faire avec une joie entière, avec une pleine confiance, avec cette assurance que tu vas bénir ces sœurs de travail. Parce qu'il n'est pas dans ta volonté qu'un seul nous périsse. Et Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ta pensée par Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer en chantant le 90 dans les recueils. 3. Et pas mal sa rôle de jeu, mais moi et mes enfants, moi et ma maison, c'est bien mon éternel.